Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mieux.
18h42 sur Europe 1, c'est la suite de débat des grandes voix avec ce soir toujours à mes côtés Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, Virginie Le Guay, chef adjointe du service politique de Paris Match et Anne Fulda du Figaro. Alors 46 millions de Français seront sous couvre-feu à partir de ce soir minuit. On va encore franchir un nouveau cap et ça n'est sans doute pas fini. Le Premier ministre a prévenu hier face à ce paquebot du Covid qu'on n'arrive pas à stopper ni même à ralentir. Il faudra peut-être encore durcir les mesures. L'hypothèse d'un reconfinement se profile. Avec dans la foulée cette question, fallait-il associer les citoyens à ces décisions qui engagent finalement toute la société et qui l'impactent énormément ? Écoutez les grandes voix, ce que disait François Ruffin, le député de la France Insoumise, la semaine dernière lors de la mise en place des premiers couvre-feux.
Au moment où il y a un couvre-feu qui est mis à 9h05, les gens ne pourront plus sortir de chez eux. On n'a aucun lieu pour discuter de tout ça. Personne n'est venu présenter ces mesures devant l'Assemblée. Alors que là, il y a un choix de porter atteinte aux libertés publiques et aux libertés en général. Ces mesures, on peut être pour ou contre. On peut les contester ou les approuver. Mais on n'a pas de lieu pour ça.
Il a raison, François Ruffin, les grandes voix. Alors attention, il ne dit pas qu'il compte le couvre-feu. Il est contre le fait de ne pas avoir été associé à cette prise de décision. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais qu'on est dans un arbitrage.
Emmanuel Ducrot.
On est dans un arbitrage entre les libertés individuelles, l'intérêt général. Ça se traduit là par, on le voit, une dégradation de la protection de la vie privée, une suspension d'un certain nombre de procédures démocratiques, une délégation aux experts. Et la question, c'est jusqu'à quand est-ce que la population accepte ça ? Alors, on a publié aujourd'hui, nous, les résultats d'un sondage qui a été mené par l'Université d'Harvard et qui est très intéressant dans 15 pays. Et 340 000 personnes ont été sondées dans le monde. Et on se rend compte que, pour l'instant, l'acceptation de ces mesures et de cette privation de liberté individuelle est assez forte. Plus de 80% des gens qui ont été sondés dans les 15 pays acceptent ça parce que l'urgence sanitaire et le risque sont là. Ça va quand même avec un certain nombre de corollaires. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il faut que ça soit borné dans le temps. Il faut que ce soit efficace, parce que si ça ne marche pas, ça devient totalement inacceptable. Et il faut aussi que ça ne concerne pas toutes les libertés individuelles. Par exemple, on l'a vu en France, la question des données personnelles liées à l'application Stop Covid, c'était très sensible. Il ne faut pas que ça touche la liberté de la presse. C'est une chose que les gens mettent aussi en avant dans ce débat. Et il ne faut pas que ça touche les élections. Et là, on en arrivera probablement au débat sur les régionales. Mais voilà, il faut que tout ça soit quand même borné. Les gens veulent bien abandonner une partie de leurs libertés individuelles, mais avec des limites dans le temps.
Donc,
et dans l'espace.
Là, vous nous parlez de la population française, mais au niveau de la classe politique, l'opposition dit qu'elle n'est jamais associée aux prises de décision. Est-ce qu'il n'y a pas un déni de démocratie quand un homme seul peut décider d'un couvre-feu pour 60% de la population sans en discuter avec le Parlement ? Anne Fulda.
Un déni de démocratie, c'est peut-être un peu fort. C'est sûr qu'on est dans une situation exceptionnelle. On est dans un état d'urgence sanitaire. C'est vrai qu'il pourrait y avoir peut-être plus d'associations, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de temps à perdre aussi.
Pas de temps pour un débat parlementaire, par exemple.
Moi, ce que je trouve, ce qui pose toujours problème, on revient, effectivement, c'est des mesures exceptionnelles qui sont prises. Ce qui interroge, c'est peut-être le manque de cohérence, je le disais déjà la semaine dernière, mais ça n'a pas tellement changé, c'est-à-dire que elles sont acceptables tant qu'effectivement on a l'impression qu'elles servent l'intérêt général et qu'elles sont acceptables. Mais il y a un moment où il faut qu'elles semblent reliées par une vraie cohérence, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. C'est-à-dire, on peut se demander pourquoi, comme s'est interrogé Philippe Bas, le sénateur Philippe Bas, il y a peu de temps, pourquoi, soi-disant, le virus circulerait plus de nuit. C'est-à-dire qu'on interdise des réunions de nuit ou à partir d'une certaine heure, oui, qu'on puisse plus circuler alors qu'on peut circuler, prendre les transports en public de jour. C'est vrai que c'est peu compréhensible.
Vous êtes d'accord avec ça, Virginie Le Guay ?
Moi, je suis d'accord avec l'idée que comme on est dans un état d'urgence sanitaire, il y a des mesures exceptionnelles qui sont prises. Je rappelle à l'opposition qu'elle n'est que l'opposition. C'est très injuste, c'est terrible, mais il y a un gouvernement, il y a un exécutif qui sont là pour prendre des décisions. C'est comme ça dans un pays. Il y a une élection présidentielle qui a choisi un président de la République qui lui-même a nommé un gouvernement. Ça fonctionne comme ça.
La démocratie, c'est aussi d'écouter l'opposition.
Oui, sans doute, mais vous vous rendez compte si l'exécutif devait associer toutes les oppositions à toutes les décisions du pays, ça serait proprement ingérable. C'est pas comme ça que ça marche dans notre pays. Je comprends que l'opposition se sente frustrée. Je rappelle que l'opposition, quand elle est associée, dit qu'elle n'est pas assez associée. Là, elle dit qu'elle n'est pas du tout associée. Bon, en fait, l'opposition, elle est rarement contente, mais c'est son rôle, c'est son travail. C'est normal, elle est toujours là pour être mécontente. Simplement, je crois que plutôt que de créer des formes de frustration et de mécontentement dans la population, il y a comme un devoir civique qui consisterait à dire bon, écoutez, là, la situation devient franchement problématique. On va vous demander effectivement de renier sur vos libertés individuelles. Vous allez devoir rentrer chez vous à 9h et rester, limiter votre bulle sociale. Enfin, tout ça n'est pas très amusant, ça va durer très très longtemps. Mais nous, on comprend que le danger de cette pandémie, les mesures sanitaires priment sur le reste. Et il y a plutôt une unité politique qui se crée autour des décisions. Mais les contester sans arrêt ne sert qu'à alimenter les divisions du pays, qui sont déjà très fortes.
Merci Virginie Le Guay. On poursuit ce débat dans un tout petit instant sur Europe 1. Restez avec nous.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mieux.
Il est 18h50 et c'est la suite de votre débat des grandes voix sur Europe 1. Je voudrais qu'on revienne avec vous, mesdames, puisque nous sommes en compagnie féminine ce soir, sur ces mesures sanitaires qui sont distillées finalement au cas par cas, enfin au coup par coup plutôt par l'exécutif. Emmanuel Macron nous a dit qu'a priori, le couvre-feu devrait durer 6 semaines. Hier, on a compris entre les lignes qu'un reconfinement, en tout cas partiel, local, n'était pas exclu. Est-ce que finalement, il n'y a pas une espèce de peur d'aller au reconfinement parce qu'on a un peu raté le premier déconfinement? Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Si on n'avait pas fait ce premier confinement, est-ce que finalement, là, on n'irait pas plus franco?
Oh, je ne sais pas si c'est lié à ça. Je pense que c'est surtout lié, on l'a beaucoup dit, mais c'est vrai, au souci qu'a Emmanuel Macron d'être sur deux fronts, c'est-à-dire le front sanitaire et le front économique. Il a ces deux crises à gérer et c'est ça qui le fait réfléchir beaucoup avant de rebasculer dans un confinement que certains prônent effectivement et peut-être auquel on n'échappera pas, c'est vrai. Je pense que c'est vraiment la ligne de crête sur laquelle il est, c'est ça le vrai souci.
Emmanuel Ducrot, vous êtes d'accord avec ce que dit Anne Fulda ?
On n'a pas fait un tour d'année calendaire de cette épidémie. On ne sait pas comment elle se comporte. Enfin, moi, je veux rappeler que scientifiquement, on n'a pas des données sur une année entière avec la saisonnalité. Et que jusqu'à il y a une époque très récente, une partie de la communauté scientifique ne croyait pas à l'arrivée d'une deuxième vague.
Exactement.
Alors, on est tous en train, et le gouvernement compris, et vraiment, j'aimerais pas être dans ses bottes, en train d'apprendre en marchant à gérer quelque chose qui nous dépasse tous totalement. Il faut se rappeler ça quand même en arrière-fond, la prise de décision, elle est dictée par l'avancée de la connaissance scientifique de cette épidémie.
Et médicale. Et puis aujourd'hui, on prend des décisions sans savoir sur le long terme si leur effet ne sera pas finalement plus délétère que la maladie elle-même, Virginie Le Guay.
Les accusations de ceux qui disent que le gouvernement navigue à vue, parfaitement, il navigue exactement à vue, mais parce qu'il voit ce qu'il voit au moment où il le voit, donc il a du mal à anticiper, probablement ne croyait-il pas à la deuxième vague. La deuxième vague arrive, elle est plus forte que prévue, les hôpitaux lancent des signaux d'alarme depuis des semaines en disant qu'ils ne pourront pas bénéficier cette fois-ci des renforts des autres hôpitaux dont ils ont bénéficié lors du premier confinement, parce que le virus est répandu sur l'ensemble du territoire, donc ça va être chacun pour soi, donc tout le monde est un peu serré avec des effectifs, qu'il n'y a pas assez de personnel pour créer d'autres lits de réanimation. Donc oui, la situation va être tendue, que le gouvernement fasse, j'allais dire, au jugé ce qu'il estime devoir être le moins mal, et le pire pour lui serait effectivement le reconfinement, parce que l'économie ne s'en remettrait pas. D'ailleurs, elle ne s'en remet pas bien, là, du premier confinement. Avec tout ce qui se passe depuis la rentrée, l'économie ne repart pas bien. Donc, l'arrêter par un deuxième confinement créerait des conséquences dont Emmanuel Macron ne veut en aucun cas. Est-ce qu'il pourra y échapper? Je ne sais pas. Effectivement, on laisse filtrer l'idée de reconfinement locaux selon les évolutions des courbes. Mais on voit bien que c'est sa hantise de procéder à un second reconfinement. Mais si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, il y a des très courts reconfinements qui sont décidés ici ou là.
Alors, il nous reste 3 minutes, les grandes voix. C'est passionnant tout ça, mais je voudrais que, comme chaque vendredi, pour celles qui le souhaitent en tout cas, il n'y a aucune obligation. Vous nous livriez votre coup de cœur ou votre coup de griffe. C'est vous qui voyez qui veut commencer.
Ah, je veux bien.
Emmanuel Ducrot, allez-y.
J'ai visité une exposition fantastique qui ouvre demain au pavillon de l'Arsenal, qui est un pavillon consacré à l'architecture et à l'urbanisme à Paris. Ça s'appelle Histoire naturelle de l'agriculture. C'est gratuit, c'est jusqu'au 28 février. Et pour les provinciaux qui ne pourraient pas être à Paris, il y a un livre. Ça raconte comment l'être humain s'adapte dans sa ville à son environnement. Et on apprend par exemple que La ville est née de la nécessité de stocker le blé et de produire de la bière. La ville est née de l'agriculture. On se pose la question de comment ramener l'agriculture. La ville en découle. On apprend aussi que la culture du petit pois qui naît autour de l'an 1000 et des protéagineuses rend les hommes plus costauds, les animaux plus costauds, et on commence à bâtir des cathédrales. Et on apprend aussi comment les villes se sont adaptées aux épidémies et comment elles vont devoir s'adapter au CO2. Et c'est absolument passionnant. C'est l'homme, son environnement, sa ville. Allez-y, c'est vraiment c'est un éclairage à hauteur d'homme de l'architecture.
Vous
c'est
nous avez donné envie, ouais. En tout cas, Emmanuel Ducrot. Virginie Leguet, coup de cœur, coup de griffe ?
Alors, coup de cœur, et moi je m'adresse aux ceux qui vont être victimes ou plus ou moins consentants du couvre-feu. Foncez sur le site d'Arte, regardez le film qui s'appelle Les Héritiers de Marie-Claire Castichat, qui raconte l'histoire d'une professeure de lycée, d'une classe de seconde, une classe qui n'est pas si facile que ça, et qui leur propose de participer au concours national de la résistance et de la déportation. Les élèves disent « Oh là là, sûrement pas, d'abord ça ne nous intéresse pas et on ne sera pas capable. » Et tout le film, c'est l'histoire de cette aventure collective de cette classe d'adolescents qui ne sait pas très bien ce que c'est que cette période, qui la découvre au fur et à mesure de son travail. Et c'est un film drôle, passionnant, mais qui raconte beaucoup de ce qu'on peut faire avec des jeunes quand on veut vraiment leur faire comprendre l'histoire.
Et ça s'appelle « Les Héritiers ».
Et je trouve que ça s'adapte parfaitement à la situation actuelle.
Merci Virginie Leguet. Il ne manque plus que vous.
Alors moi, je vous proposerai une lecture du livre L'ami impossible de Bruno de Stabenrath, dont on a pas mal parlé, qui est un très joli livre écrit par son ami d'enfance et qui raconte cette jeunesse à Versailles lorsque lui, Bruno de Stabenrath, était acteur dans l'hôtel de la plage, dans le film L'hôtel de la plage. Et il raconte avec beaucoup de tendresse ces jeunes années de Xavier Dupont de Ligonnès, et c'est très joliment écrit.
Donc un livre, un film, une exposition, trois
voilà
coups de cœur qui vont nous permettre d'occuper notre week-end. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Merci. Merci les grandes voix, Emmanuel Ducrot, Virginie Leguet et Anne Fulda, de m'avoir accompagnée ce soir sur Europe 1. On vous dit à très vite.